Les voies de service, mercredi 10 janvier 2018. Bonjour tout le monde, ici Daniel Lachance qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Les voies de service. Je serai seul aujourd'hui, mes deux collègues Isabelle et Serge sont absents, alors je serai la voix de service. J'ai quelques sujets assez intéressants pour vous aujourd'hui, dont un qui m'a particulièrement, particulièrement attiré mon attention, qui s'intitule « Les sensibles à l'oreille ». On va ensuite parler un peu d'écoloques et aussi une marche pour le 375e anniversaire de la Croix du Mont-Royal. Et comme vous pouvez voir, je ne vais pas vous parler seulement de musique aujourd'hui, étant donné que mes collègues sont absents. Donc, à tantôt pour le premier article. L'essentiel est inaudible à l'oreille. C'est un article que j'ai trouvé dans Le Devoir, sur le site web du Devoir. Je ne sais pas s'il a été aussi sur l'édition imprimée. Un article qui a été écrit par Dominique Tardif. Les mots « sourd » et « mélomane » pourraient ne plus être mutuellement exclusifs. Portrait des initiatives encore peu nombreuses permettant aux personnes sourdes de vivre la grisante expérience d'un spectacle musical. Quand je vais voir Céline Dion en spectacle, je m'informe de la programmation à l'avance, j'imprime les paroles et je me pratique en écoutant les chansons tout en espérant être capable d'apprécier l'ensemble de sa prestation, confie Yannick Garraud, 32 ans, qui jusque-là ressemble à n'importe quel admirateur obsessif de l'icône nationale. C'est cependant moins par passion dévorante que par obligation que le mélomane fouille le web afin de connaître le contenu du spectacle auquel il s'apprête à assister. Bien qu'il s'exprime oralement et parvienne à entendre partiellement de la musique grâce à des appareils, ce jeune père de famille de Gatineau ne capterait rien des textes de son idole s'il ne consacrait pas en amont d'un concert, un précieux temps de mémorisation et d'auscultation de ses refrains, son seul recours en l'absence d'interprète. En résumé, Yannick est sourd, avec un S majuscule qui désigne la culture sourde dont il se revendique. À mes yeux, l'argument de l'argent n'est pas complètement valide. Il y a le quart de la salle qui n'aurait pas été là à la Sala Rossa si le spectacle n'avait pas été présenté en LSQ. Je pense que c'est surtout qu'on n'est pas habitué d'inclure les gens. Et ça, c'est un chanteur, Samuel, qui déclare. Cet enthousiaste consommateur de culture aurait sans doute aimé assister au spectacle que donnait Samuel, ou Samuelé, je ne sais pas exactement comment il se prononce, désolé, le 8 novembre dernier, au coup de cœur francophone, lors duquel Annick Morrison et Marie-France Sabourin auront traduit en LSQ, la langue des signes québécoise, les chansons de colère et d'espoir du premier album de l'auteur-compositrice. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. « Est-ce que je parle trop vite pour toi ?» demandera à quelques reprises l'artiste à ses collègues d'un soir pendant ses interventions au débit souvent emporté. Les textes à haute teneur poétique de la musicienne avaient pour leur part longuement été décortiqués par le duo d'interprètes des semaines avant la représentation. L'accessibilité, c'est une réflexion importante pour moi. Une personne sourde est venue me voir après un spectacle pour me dire « J'aime ce que tu fais, mais je ne comprends rien aux paroles et je ne peux pas lire sur tes lèvres parce que t'es trop loin », explique celle qui mettait en ligne en septembre le vidéoclip de la chanson « La Révolte », lui aussi signé en LSQ. Mais pourquoi une personne sourde voudrait-elle assister à un spectacle de musique? C'est qu'au-delà des sons eux-mêmes, un spectacle présente plusieurs autres stimuli ainsi qu'une occasion sociale sans pareil. Dans mon cas, j'entends certains sons, mais j'aime aussi la vibration, les costumes, l'éclairage, souligne Yannick Garraud. Je rêve, je voyage grâce au mouvement, aux expressions faciales. Je capte les émotions. Une expérience que la compréhension du discours que tient un artiste par l'intermédiaire d'interprètes. Si l'initiative de Samuel compte au Québec parmi les rares exemples de spectacles musicaux accessibles à un public sourd, le monde anglo-saxon a multiplié au cours des dernières années les cas de figure étonnants. Une vidéo de l'interprète Holly Magnetti traduisant fougueusement en ASL, American Sign Language, le classique « Bring the Ruckus » de Wu-Tang Clan au festival Bonnaroo faisait par exemple le tour des réseaux sociaux en 2013. La jeune sensation du rap américain Chance the Rapper invitait quant à lui l'interprète Matt Maxey, 29 ans, à l'accompagner sur la route lors de sa plus récente tournée. Avec son entreprise baptisée Definitely Dope, et ici Def s'écrit D-E-A-F pour sourd, cet exégète de la culture hip-hop, que certains surnomment le Kanye West sourd, est aujourd'hui largement considéré comme la référence en matière de traduction en ASL de morceaux de rap. Au Québec, Spectacle Interface monte sur les planches depuis 2008 afin de dérider un public sourd grâce aux blagues réinventées en LSQ de populaires humoristes comme Michel Barrette, Philippe Laprise ou Maxime Martin. Une représentation du spectacle « Les Morissettes » de Véronique Cloutier et Louis Morissette affichait complet le 2 décembre dernier au Théâtre Hector Charland de l'Assomption, comptant 664 places. Compte tenu de l'absence d'un programme de soutien spécifique à la traduction de spectacles en LSQ, 500 heures de travail en moyenne, l'entreprise cofondée par un fils entendant de parents sourds, Martin Asselin, produit elle-même ses spectacles, ce qui oriente forcément ses choix théâtraux et humoristiques. La communauté sourde est à l'image du reste de la société, et on peut penser qu'il y aura un public qui aimerait assister à des pièces de théâtre plus pointues, note-t-il. Mais personnellement, je ne peux pas me lancer là-dedans en sachant pertinemment que je vais perdre de l'argent. Selon la plus récente enquête, en 2012, de l'Office des personnes handicapées, 116 210 Québécois vivent avec une incapacité auditive. La question des coûts demeure bien sûr indissociable de celle de l'accès à des services d'interprétariat. Alors que la politique d'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées contraint depuis 2008 tous les ministères et organismes publics québécois à mettre en place au sein de l'administration toutes les conditions qui permettront aux personnes handicapées d'avoir accès en toute égalité aux services et aux documents offerts au public, rien de tel n'oblige les diffuseurs culturels ou les salles de spectacle de la province à fournir les mêmes services. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Marie Montpetit, n'était pas disponible pour répondre à nos questions sur le sujet. À mes yeux, l'argument de l'argent n'est pas complètement valide. On entend souvent « ça coûte cher des interprètes », regrette Martin Asselin. Mais oui, ça coûte cher, mais ça coûte cher aussi de descendre des bordures de trottoir pour les personnes à mobilité réduite. Ça coûte cher la vidéo description pour les personnes aveugles. Mais il faut aussi se rappeler que nos choix collectifs définissent ce genre de société que nous sommes.
La révolte colle au bain. la cour te pointe du doigt. Mais le fou se moque du roi. On est fou avec toi. La révolte prit maison chez les fous et les sans nom qui tous unis devant le roi se tiennent nombreux.
Extrait de son album « Les filles sages vont au paradis, les autres où elles veulent ». C'était la pièce « La révolte » de Samuel, une des pièces qui a été mentionnée précédemment dans l'article de Daniel, dont le vidéoclip de cette pièce est en LSQ.
Eh bien voilà, maintenant je saurai comment le prononcer.
Ça fait plaisir.
Et je m'excuse tantôt d'avoir omis de signaler la présence de notre collègue Jean-Sébastien Laliberté. Donc, je ne suis pas totalement la seule voix que vous allez entendre ce matin. Voilà. Maintenant, un autre article que j'ai encore trouvé dans Le Devoir, sur le site ledevoir.com, et encore un article écrit par Dominique Tardif. Un hasard, mais bon. Et ça s'intitule « Les colocs par-delà Dédé ». 20 ans après, dehors novembre, son guitariste présente toujours des spectacles sous ce nom. Les journaux changent de journaliste souvent. Pourquoi continue-t-il d'utiliser le même nom? Demande à des fins purement rhétoriques Mike Savoitsky. Le guitariste présente toujours chaque été une poignée de spectacles sous le nom Les Colocs, en compagnie d'un musicien associé à l'histoire du groupe, Elage Diouf, Guy Bélanger, Justin Allard. Chaque spectacle est une célébration de l'esprit de Dédé et de Pat. Patrick Esposito, dit Napoli, harmoniciste, décédé en 1994, assure l'unique colloque officiel de ces colloques 2.0. Le groupe rend hommage à Dédé, à Pat et au public, mais ce n'est pas un groupe hommage. Mike Savoitsky évoque ici les propos du frère de Dédé Fortin, Réal, qui en 2016 le critiquait en des termes à peine voilés en marge d'une conférence de presse du Festival international de la chanson de Granby. Quand je vois des groupes faire des spectacles en hommage aux colocs sans y afficher le nom d'André, ça me semble être un manque de respect envers celui sans qui rien n'aurait été possible, déclarait alors à l'agence QMI celui qui refuse aujourd'hui de revenir sur ses propos de l'époque. Il précise toutefois que Mike Savoitsky peut employer le nom Les Colocs grâce à une licence non exclusive accordée par la famille Fortin, requérant que la publicité de ces spectacles comporte un descriptif clair. Savoitsky emploie le nom « Les colocs, les soirées retrouvailles » de Mike Savoitsky. Pour Dédé, les colocs, ce n'était pas que lui. C'était un collectif qui comprenait autant les musiciens que les gens qui faisaient du visuel que ceux qui faisaient du montage de scène, se souvient pour sa part André Voderbeest, le bassiste des colocs période de hors novembre, qui co-signe la musique de Tassez-vous de là. Pendant des années, j'en ai pas parlé du tout des colocs pour ne pas donner l'impression de vouloir faire du millage sur l'héritage du groupe. Mais il m'arrive aussi, des fois, de souhaiter que les gens en sachent davantage sur l'impact réel de mon travail. Dehors novembre, je connais toutes les virgules, toutes les respirations de cet album-là. Est-ce que ça intéresse les gens de le savoir? Le sort des musiciens au Québec leur permet rarement de cracher sur une occasion de payer le loyer à temps, signale Vanderbeest sur un ton plus pragmatique qu'amer. Dès que je participe à un projet lié au colloque, il y a des gens qui disent « t'en profites ». J'imagine qu'il ne dirait pas la même chose s'il savait que j'ai passé l'année dernière à flipper des burgers à 12 $ de l'heure. Après avoir offert une série de spectacles avec Mike Savatsky pour célébrer le 20e anniversaire des colocs, le bassiste faisait néanmoins le choix de les quitter. Mais je ne suis pas contre le fait que Mike joue sous le nom des colocs. Non, parce que ça fait plaisir à ben, ben du monde. Ce n'est pas à ça que ça sert, la musique, bordel. J'ai déjà rencontré le guitariste de Bob Marley, Junior Marvin, conclut le reggae man d'origine belge, aujourd'hui installé en Gaspésie. Je lui ai demandé « Toi, man, ça fait 30 ans que Marley est mort et que tu roules encore avec ses chansons. Pourquoi? » Il m'avait répondu « Parce que j'ai eu la chance de côtoyer un gars dont la musique a fait plus de bien que le travail de toutes les religions du monde. »
Juste en bas de chez moi sur la rue Mont-Royal, y a un petit gars, y a pas de bicycle. Mais y a une mère, mais c'est pas sa mère, pis son père c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois y a l'autre mère qui est pas plus sa mère, elle vient le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs le bruit c'est toute sa vie, à part la folie. Wow wow wow, oh dédé, 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 dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. Chasse les démons qui rentrent dans ta tête. Hey! Oh, tous les jours à 7h du matin, j'entends des cris de Dédé. Vieille scène! Je pense que Dédé c'est un fils de putain. On le traite comme un chien. Et puis y'a l'autre sous l'eau qui gueule après lui. Une chance qui est pas là l'après-midi. Ça fait que Dédé va jouer dans ruelle avec les poubelles. Wow 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 Dédé, 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 Dédé. Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide. Chasser les démons qui rentrent dans ta tête. Hey! Le bruit est parti et vit sa vie. Entre deux couvertes puis son vieux toutou. Enfin le monde est doux. Un de rêve à l'autre, il patine et s'amuse. Il danse et rit avec ses chums. Il vole au-dessus de la ville avec les éléphants. Enfin y'a du fun.
Retour en 1993 avec la première pièce du premier disque des colocs, c'était bien sûr Dédé.
Dédé, tout un personnage quand même. C'est vrai que c'est assez difficile de dissocier les colocs de Dédé. Même si l'argument tantôt de si on change un journaliste, on change pas le nom du journal, je trouve pas que l'exemple est très très pertinent. C'est comme si on disait aussi Maurice Richard fait plus partie des Canadiens depuis longtemps, ça s'appelle encore les Canadiens. Mais bon, voilà. Un autre article ici qui a été pris dans la presse et qui n'a pas de rapport avec la musique. Une marche pour le 375e anniversaire de la Croix du Mont-Royal. Et ça a été publié le 6 janvier dans la presse.ca. Des membres de la communauté catholique de Montréal ont bravé le froid polaire samedi afin de souligner le 375e anniversaire de l'érection de la Croix sur le sommet du Mont-Royal. Plusieurs dizaines de personnes ont chanté des cantiques de Noël tout en gravissant le mont, suivant une procession portant une croix en bois. La marche était menée par Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, ainsi qu'un homme et une femme incarnant les cofondateurs de Montréal, Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance. Monseigneur Lépine a affirmé que Maisonneuve avait érigé une croix en bois sur le Mont-Royal le 6 janvier 1643, afin de remercier Dieu d'avoir protégé la ville d'inondations. Il l'a fait le 6 janvier parce que le 24 décembre, la veille de Noël, le fleuve Saint-Laurent montait et menaçait la jeune colonie, a-t-il relaté. Ils ont donc prié Dieu pour être épargnés en promettant qu'il mettrait la croix sur le Mont-Royal. La marche de samedi s'est terminée par une minute de silence et une messe en bas de l'immense croix illuminée qui trône maintenant sur la montagne. Stephen Otvos, un prêtre du diocèse, a trouvé l'événement beau mais froid. On se demande pourquoi. Nous commémorons ce jour, mais aussi ce moment que nous avons ensemble en tant que communauté chrétienne pour partager le message que la croix est un signe d'amour pour toute l'humanité, a-t-il confié. La croix actuelle, une structure illuminée en acier et haute de 30 mètres, a été installée en 1924 après que des bénévoles eurent récolté 10 000 $ en vendant des timbres. La croix de 26 tonnes est toujours bien visible à 80 km à la ronde lorsque le ciel est dégagé, selon la ville de Montréal. Selon l'archevêque, la croix du Mont-Royal est un symbole important pour de nombreux Montréalais, qu'ils soient croyants ou non. Elle fait partie de la figure de Montréal et c'est une figure qui est importante non seulement pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, mais aussi pour l'ensemble de Montréal et du Grand Montréal. C'est un symbole de rassemblement, a-t-il conclu. Et je me rappelle une chose, je ne suis pas certain, mais il faudrait le vérifier. Je pense qu'il y a 20 ans exactement, la croix avait été plutôt abîmée par le verglas, la crise du verglas qui avait eu lieu en janvier 1998. Ça serait à valider, mais je pense que c'est un autre anniversaire peut-être qu'elle aurait dû fêter, parce que je pense qu'elle a eu besoin d'être réparée après le verglas. Un autre article qui provient du Devoir. Le CD n'est pas mort en 2017 et il vivra encore en 2018. Un article qui est paru le 5 janvier 2018. Malgré le surnom d'année de l'écoute en continu, ou streaming en anglais, que plusieurs ont collé à 2017, il semble que la dernière année ait plutôt démontré que les petits disques aux reflets brillants demeurent bien vivants. Un sursaut de vitalité qui n'est pas nécessairement attribuable à une forte demande de consommateurs qui s'accrochent au CD, mais plutôt à l'industrie qui déploie des efforts de créativité afin de prolonger l'existence de sa vieille poule aux œufs d'or. Au Canada, les ventes d'albums ont notamment été stimulées par une stratégie reprise par plusieurs artistes de vendre des forfaits combinant billets de spectacle et exemplaires physiques de leurs plus récents albums. Arcade Fire, Shania Twain et Pink ont notamment utilisé cette stratégie marketing. De nombreux admirateurs qui se sont déplacés pour assister au spectacle se sont vus offrir le choix entre un CD de l'album envoyé par la poste ou un téléchargement numérique. Impossible de savoir si tous les albums envoyés par la poste ont été déballés une fois arrivés à destination, mais ces envois de masse ont permis aux artistes de se propulser au sommet des palmarès de vente dans les premières semaines ayant suivi leur lancement respectif. Le disque compact se trouvait aussi au cœur de la campagne promotionnelle du plus récent album de Taylor Swift, Reputation. Des emballages spéciaux contenant un CD et un magazine exclusif au sujet de la jeune chanteuse ont été distribués dans les succursales de Walmart au Canada. En revanche, les plateformes de musique en continu ont dû patienter 3 semaines avant d'avoir accès aux chansons de l'album le plus vendu de l'année. Donc ici, avantage CD. D'autres albums, comme l'œuvre posthume de Gord Downie intitulée Introduce Yourself, ont connu un succès beaucoup plus marqué en format physique que numérique. Environ 9700 copies en format CD ont trouvé preneur, ce qui représente quelques milliers de ventes de plus que les formats numériques et vinyle combinés. Au Canada, les données préliminaires démontrent qu'en 2017, les ventes d'albums numériques ont chuté de 25 % en un an en raison du nombre élevé d'utilisateurs qui préfèrent les plateformes de musique en continu. La chanteuse américaine Lana Del Rey a annoncé dimanche que le groupe rock anglais Radiohead avait commencé des poursuites judiciaires pour être crédité dans une de ses chansons au vu de ressemblances troublantes avec le titre culte du groupe Creep. La chanteuse a assuré qu'elle n'avait pas été inspirée par la chanson Creep, sortie en 1992. Le débat porte sur Get Free, chanson finale du plus récent album de la chanteuse, Lust for Life, qui débute avec des accords de guitare vraisemblablement identiques à ceux de Creep sur le même tempo régulier. La chanteuse a confirmé la procédure après sa révélation par le tabloïd britannique The Sun, affirmant qu'elle avait proposé un compromis mais que le groupe anglais désirait être crédité pour l'œuvre entière. J'ai offert jusqu'à 40% des revenus ces derniers mois, mais ils n'accepteront que 100, a-t-elle déclaré sur Twitter. Et je pense que ça vaut la peine, si on a le temps, d'écouter un peu le début de la pièce pour constater. Finally, I'm crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Undoubtedly, that will for certain take the dead out of the sea and the darkness from the arts. This is my commitment, my modern manifesto. You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special.
you're so very special. Yeah, I wish I was special.
On parlait juste avant la pause de cette poursuite de Lana Del Rey et de Radiohead concernant la pièce Creep, après avoir entendu un extrait de la pièce Get Free de Lana Del Rey, celle qui est visée par la poursuite. On vient d'entendre Creep, mais cette fois-ci pas interprétée par Radiohead telle qu'à l'origine, mais cette fois réinventée par le Scott Bradley's Postmodern Jukebox.
Donc, on peut constater que la ressemblance est quand même très frappante.
La mélodie, les progressions d'accords, les intonations vocales, oui, il y a une ressemblance.
On a changé les paroles, c'est à peu près tout.
on a changé d'autres extraits, d'autres parties de la chanson, mais sinon, il y a un essentiel.
Il y a matière à poursuite.
Absolument.
Il y a matière à poursuite.
Absolument.
Et d'ailleurs, l'article que je vous ai lu tantôt avait paru dans La Presse Plus, l'édition d'hier. Et je viens de voir que dans le journal 24 heures ce matin, on dit que Lana Del Rey serait prête à retirer le morceau Get Free de son dernier album si elle perd la bataille judiciaire qui l'oppose à Radiohead. Le groupe britannique demande à la chanteuse 100% des droits du morceau, comme on l'a dit tantôt, parce qu'il accuse d'avoir plagié leur chanson Creep. Quelques heures après avoir admis sur les réseaux sociaux qu'elle se préparait à un procès, Lana Del Rey a évoqué l'affaire avec ses fans lors d'un concert à Denver ce dimanche. Elle serait prête à retirer la chanson de l'album Lost for Life si aucun arrangement n'est trouvé. Je veux simplement que vous sachiez que même si le morceau est retiré, que je vais me battre pour faire exister tout ce que j'ai écrit, a-t-elle dit sur scène. Donc, elle peut se battre pour faire exister tout ce qu'elle a écrit, oui, mais il faut quand même mentionner quand la musique, ce n'est pas elle qui l'a écrit. Alors voilà, c'est à suivre un procès qui va probablement faire du bruit. Et en parlant de procès, un article que j'ai trouvé sur le site lapresse.ca qui a été publié le 2 janvier, nouvelle plainte déposée contre Spotify aux États-Unis. Un éditeur de musique américain a porté plainte contre le Suédois Spotify et réclame 1,6 milliard de dollars au numéro 1 de l'écoute de musique en ligne, lui reprochant de ne pas avoir réglé les droits de plus de 10 000 morceaux. Wixon Music Publishing, qui détient les droits d'artistes comme Neil Young, Les Doors, Tom Petty et Santana, quand même pas de parfaits inconnus, a déposé sa plainte la semaine dernière, reprochant à la plateforme de streaming musical de ne pas avoir cherché à obtenir les droits pour une grande partie de son catalogue, fort de 30 millions de morceaux. Alors que Spotify est devenu une entreprise multimilliardaire, les compositeurs de musique et leurs éditeurs, comme Wixon, n'ont pas pu profiter du succès de Spotify de manière juste et équitable, puisque Spotify, à plusieurs reprises, a utilisé leur musique sans en avoir les droits et sans donner compensation financière, stipule la plainte déposée la semaine dernière devant un tribunal fédéral de Los Angeles. Le document judiciaire précise que Spotify a, dans un premier temps, essayé de collaborer avec les maisons de disques, mais dans une course pour être premier sur le marché, n'a pas suffisamment fait d'efforts pour acquérir les différents éléments requis. Wixon, qui demande à ce que se tienne un procès devant jury, a transmis une liste de 10 784 chansons qui, selon lui, sont diffusées illégalement par Spotify. Ça fait beaucoup, beaucoup d'heures d'écoute quand même, gratuitement. L'éditeur a expliqué qu'il demandait la compensation maximum autorisée par chanson, 150 000 $, ce qui fait un total de 1,6 milliard pour l'ensemble des morceaux, sans compter les frais d'avocat. Spotify, qui n'a pas réagi à la plainte, avait accepté en mai 2017 de créer un fonds de 43,45 millions de dollars pour mettre fin à une procédure judiciaire potentiellement coûteuse avec des artistes américains. Wixon a qualifié l'accord, qui doit encore être approuvé par un juge fédéral à New York, de largement insuffisant. Même quand elles n'aboutissent pas, les plaintes nuisent à l'entreprise qui souhaite entrer en bourse. Spotify a annoncé en juin avoir atteint 140 millions d'utilisateurs ainsi qu'une forte progression de son chiffre d'affaires.
Groupe qui n'a plus besoin de présentation, c'était la pièce Magical Mystery Tour, la première pièce de l'album du même nom. Daniel, est-ce qu'on peut en savoir plus?
Eh oui, il y aurait tellement de choses à dire sur Magical Mystery Tour que ça ferait l'objet d'une émission complète d'une heure. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de la faire éventuellement, car je dois faire une petite publicité ici. En passant, j'anime une nouvelle émission qui s'appelle Table tournante, qui est diffusée le samedi après-midi à 15h sur Canal M, et émission au cours de laquelle on écoute un album en entier, et je vous donne certaines informations aussi sur l'artiste et sur l'album. Et ça m'a frappé dernièrement parce que durant les fêtes, j'ai revisionné le film des Beatles, Magical Mystery Tour, qui a 50 ans, qui vient d'avoir 50 ans. Et je me suis dit que ça valait la peine d'en parler, donc j'ai fouillé un peu. Il y a tellement d'articles, il y a tellement de choses qui ont été écrites sur Magical Mystery Tour et sur les Beatles en général, que ça n'a pas été facile de faire le tri, mais voilà. J'ai trouvé un article sur le site www.nostalgie.be et j'ai trouvé assez intéressant pour que ça mérite d'en parler. Il y a 50 ans, les Britanniques découvraient à la télévision le Magical Mystery Tour, le nouveau film des Beatles réalisé pour la BBC. Alors qu'Elvis Presley est toujours à une cadence de 2 à 3 films par an, les Beatles n'ont plus rien tourné depuis Help en 1965. L'attente est donc énorme pour les Britanniques qui, le soir du Boxing Day, donc le 26 décembre, sont plus de 20 millions devant leur petit écran en noir et blanc. Film psychédélique par excellence, l'explosion de couleurs va donc leur passer largement au-dessus de la tête. Ce n'est pourtant pas la seule raison pour laquelle les téléspectateurs sont très déçus par ce film. S'ils ont bien sûr acheté en masse depuis le début du mois le double 45 tours des chansons de ce film, ils sont surtout déconcertés par l'absence totale de scénario. En passant, petite parenthèse, il faut que je le dise justement, l'album Magical Mystery Tour qu'on connaît aujourd'hui, c'est la version américaine qui a par la suite été adoptée en Angleterre aussi, mais au départ, c'était un double EP, donc 45 tours avec 2 pièces sur chaque face, mais il y avait 2 45 tours pour 5 chansons en tout. Et c'était seulement les chansons qui avaient été incluses dans le film Magical Mystery Tour. Mais aux États-Unis, on a décidé de faire un vrai album, un vrai vinyle 33 tours, en ajoutant 5 chansons qui avaient fait l'objet de singles, dont Penny Lane, Strawberry Fields Forever et surtout All You Need Is Love. Donc voilà, je reviens à l'article. Réalisé après la sortie de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, le tournage s'est déroulé en l'espace de 2 semaines courant septembre 1967. Le script tenant en quelques lignes les excursions en car pour aller voir les féeries lumineuses de Blackpool, les Beatles et surtout Paul McCartney vont s'en donner à cœur joie dans l'improvisation la plus débridée. Paradoxalement, si le public de l'époque est resté de marbre devant ce Magical Mystery Tour, il constitue aujourd'hui un trésor inestimable puisqu'il a fourni la matière à de nombreuses vidéos quand l'ère du clip est venue. Et des clips d'une qualité à nul autre pareil pour les années 60. En cela, Magical Mystery Tour est une authentique œuvre d'avant-garde. Cet échec critique et public réjouit d'autant John Lennon qu'il ne supporte pas l'ascendant que McCartney a pris sur son groupe. Un ascendant salutaire, faut-il le souligner, car John Lennon est démobilisé depuis bientôt un an, vivant reclus et ne se rendant au studio que sous la pression des autres Beatles. La diffusion en couleur sur BBC le 5 janvier 1968 ne change rien à la vie du public et des critiques. Ce film est un désastre qui marque pour les Beatles la fin du tout psychédélique, comme le prouvera la majorité des plages de leur double album blanc en octobre suivant. Pour le plus grand plaisir des collectionneurs, le Magical Mystery Tour ne sort pas aux États-Unis sous la forme du double 45 tours, mais d'un album auquel les Américains de Capitol ajoutent 5 titres figurant sur les récents singles des Beatles comme « Hello Goodbye », « Penny Lane », « All You Need Is Love » et « Strawberry Fields ». Malgré les ventes colossales que Sgt. Pepper est encore en train de réaliser, le Magical Mystery Tour se vendra ainsi à 6 millions d'exemplaires. Il a d'ailleurs été réédité sous cette forme depuis les années 80. Donc, si jamais vous mettez la main sur le double EP de l'original Magical Mystery Tour, c'est une pièce de collection. Je pense qu'il ne doit pas en rester beaucoup, surtout en bon état, de cette série-là. Par contre, je vous invite à réécouter l'album qu'on connaît, le Magical Mystery Tour. Très intéressant quand même pour toutes les pièces. Et aussi, je pense que les nouvelles rééditions, je pense qu'ils ont réédité en vinyle récemment. Il y en a en CD, là, c'est facile à trouver. En vinyle, peut-être un peu plus difficile. Mais s'ils l'ont réédité en vinyle, je pense qu'il y a aussi le livret à l'intérieur avec plein de photos qui ont été prises lors du tournage du film. Show the way.
Please Please Me, et encore une fois, les Beatles, mesdames et messieurs.
Please Please Me qui a été un de leurs premiers succès, hein. C'était sur le premier album. Et tant qu'à être dans les Beatles, je suis allé fouiller sur le site de Rolling Stone Magazine et un article qui est paru la semaine dernière, le 3 janvier 2018, George Martin aux commandes des Beatles. Producteur iconique des Beatles, George Martin demeure une figure incontournable de la scène musicale britannique. À l'occasion de ce qui aurait été son 92e anniversaire, Rolling Stone revient sur son histoire. Janvier 1962, le label Decca reste insensible au charme des Beatles, aux grandes dames de leur jeune manager, Brian Epstein. Que faire pour que l'on s'intéresse enfin à ces quatre protégés? Alors que les futurs quatre garçons dans le vent font des vagues à Hambourg, il se rend à Londres pour presser leur démo. En passant, quatre garçons dans le vent, c'était la traduction française du film Hard Day's Night. Le titre du film Hard Day's Night en français, c'était quatre... C'était un petit peu à la mode à l'époque dans le vent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu déphasé. Donc, il se rend à Londres pour presser leur démo. Interloqué par ce rock de nouveau genre, le technicien d'EMI aiguille Epstein vers la direction de Parlophone, une antenne du gigantesque label dirigé par George Martin depuis 1955. Séduit par la voix de Paul McCartney et le doigté de George Harrison, ce dernier accepte de les auditionner. Rendez-vous est pris le 6 juin de la même année. Cinq chansons plus tard, c'est un George Martin satisfait qui escorte les Beatles vers la sortie. Il les recontactera. Moins de deux mois après, le couperet tombe. Le jeune producteur veut faire signer un contrat aux quatre musiciens. Néanmoins, un problème demeure. Le jeu de batterie de Pete Best ne convainc pas. De l'avis plus ou moins général, un certain Ringo Starr ferait mieux l'affaire. Brian Epstein est alors chargé de renvoyer le batteur mutique. Ses fans se déchaînent. Les rues de Liverpool sont pendant un temps noyées sous les « Pete Best forever, Ringo never ». Ce sera à Please Please Me de calmer les esprits. La chanson qu'on vient d'entendre, justement. Après 30 semaines au sommet du top 50, le batteur aux bagues est adopté. Si George Martin quitte EMI en 1965, il n'abandonne pas les Beatles, loin de là. Bien que John, Paul, George et Ringo soient sans conteste des génies créatifs, ils n'avaient que des connaissances réduites en musique et se reposaient sur les connaissances encyclopédiques de George Martin pour transposer ce qu'ils avaient à l'esprit sur les maîtres de piste qui encombraient les studios d'Abbey Road. Arrangeur en chef, lien d'utilité technique entre Lennon et McCartney, ses connaissances musicales lui permettent de faire sens de morceaux d'une complexité toute nouvelle, tels que le désormais culte A Day in the Life ou Revolution 9. Artisan d'un mythe unique en son genre, George Martin demeurera toujours d'une étonnante clairvoyance quant à son rôle dans cette mécanique parfaitement huilée. Quand ils ont commencé, ils ne savaient rien. Ils avaient donc énormément besoin de moi pour concevoir leur identité sonore. Au plus fort de leur carrière, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ils se reposaient sur moi pour arranger leurs albums.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'd like to see you.
le groupe 10cc avec la pièce I'm Not In Love, un succès de 1975 qu'on a pu réentendre récemment. Il a été remis au goût du jour, notamment en apparaissant dans le film Guardians of the Galaxy. Et ce n'est pas un choix anodin, Daniel?
Oui, oui, je vais vous en parler justement un peu. Un article que j'ai trouvé dans la presse plus d'hier. L'article a pour titre « La musique en 2017 », mais je vais vous en lire seulement quelques extraits. Et dans cet article-là, on parle justement du retour de la cassette. Et ça, ça m'a pas mal impressionné. Ce n'est pas comptabilisé dans le rapport canadien, mais aux États-Unis, les ventes de cassettes ont grimpé de 35 % en 2017, avec 174 000 exemplaires vendus. C'est quand même pas énorme, là, mais c'est une bonne augmentation parce qu'on pensait que les cassettes étaient rendues pas mal à zéro, là. Les deux volumes de Guardians of the Galaxy, justement, figurent parmi les plus grands succès, ainsi que Lust for Life de Lana Del Rey, quand même assez surprenant, on en a parlé un peu tantôt aussi, Lana Del Rey, et Reputation de Taylor Swift. Cela vous dépasse? Sachez que des magasins à la mode comme Urban Outfitters vendent des cassettes. Je l'ai appris hier en lisant ça, là, j'ai encore plein de cassettes chez nous, mais j'étais certain que ça ne servait plus à rien et qu'il n'y avait plus aucun lecteur de cassettes sur la planète. Ça a l'air qu'il y en a encore. Et on parle aussi de l'écoute en continu au secours des ventes. Les ventes d'albums ont continué de chuter au Canada en 2017 de 17%, mais l'écoute en continu a bondi de 71%. Considérant qu'une chanson écoutée en continu 1500 fois équivaut à la vente d'un album, la consommation de musique a augmenté de 14% au Canada de 2016 à 2017. Précision, ces données ne sont pas encore disponibles au Québec. Et aussi, faudrait-il préciser qu'il faut quand même que les services de musique en continu payent les droits aussi, si on veut que les artistes fassent un peu d'argent. Et le vinyle serait là pour de bon aussi. Depuis 7 ans, les ventes de vinyle ne cessent d'augmenter. Au Canada, la hausse se chiffre à 22 % en 2017, avec 804 000 exemplaires vendus. Ed Sheeran arrive au premier rang avec Divide, suivi des rééditions de Dark Side of the Moon de Pink Floyd et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Et ceci met fin à l'émission Les Voix de Service du 10 janvier 2018. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine où mes deux collègues devraient être présents. Donc, vous entendrez trois voix de service. Et maintenant, je vais céder la parole à Hélène Denis pour l'émission Le quotidien des quotidiens. À la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde.